Bien. Alors, bonjour tout le monde. Et je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas être parmi vous. Comme vous l'entendez peut-être, j'ai des problèmes de voix. Je suis très grippé avec de la fièvre. Mais comme je suis tellement déçu de ne pas pouvoir participer au festival, un festival que j'attendais depuis longtemps, et surtout de pouvoir partager avec les collègues de la table ronde et de pouvoir écouter et rencontrer d'excellents artistes finlandais, eh bien je me suis dit que je vais quand même enregistrer une petite présentation que je vais envoyer aux organisateurs. J'en profite pour remercier d'ailleurs ces organisateurs pour le travail excellent qu'ils ont fait, pour un programme de rêve. Et surtout de me donner la possibilité de m'exprimer, même si je ne peux pas être avec vous physiquement aujourd'hui. Merci, en tout cas. Alors, l'éducation finlandaise, un grand sujet. Ce miraculeux système éducatif finlandais dont on n'arrête pas de parler partout dans le monde, surtout depuis quelques années, et surtout en liaison avec les études PISA. Ces études que je nomme des études biaisées et auxquelles je ne fais absolument pas confiance. Le miracle de l'éducation finlandaise est à déconstruire. Je ne pense pas qu'il y ait un miracle. Je ne pense pas que la Finlande soit le meilleur système éducatif au monde. Je pense que c'est un bon pays, comme tous les autres pays. C'est un pays qui a de bonnes choses, un pays qui a de mauvaises choses. Et ce que j'aimerais faire dans ma présentation, c'est partager avec vous quelques arguments critiques envers ce que j'ai appelé le mythe de l'éducation finlandaise. Vous retrouverez ces critiques dans les ouvrages que j'ai publiés sur la question, notamment le livre que vous voyez sur le PowerPoint, qui s'appelle « La meilleure éducation au monde, contre-enquête sur la Finlande ». Alors, il a été publié en 2013, donc il est déjà un peu dépassé puisqu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, enfin cette dernière année qui vient de s'écouler, notamment après les résultats PISA où la Finlande a chuté hein, dans les classements, et un numéro spécial de la revue Recherche en éducation où j'avais rassemblé pardon, des chercheurs qui portaient un regard critique sur différents aspects de l'éducation finlandaise. Donc, prenez ma présentation un peu comme un contre-pied face aux éloges que vous pourrez entendre, peut-être dans le cadre de cette table ronde, sur l'éducation finlandaise. Alors, mon identité est bien spécifique ici. Je suis professeur à Helsinki, dans un département de la formation des enseignants, mais aussi professeur dans d'autres pays, en Chine, au Canada, en Malaisie, au Luxembourg. Et donc, ma position est celle d'un intellectuel, c'est-à-dire, comme le définit Edward Said, un intellectuel qui se pose des questions sur la vérité, qui se pose des questions sur le sens commun, et surtout qui essaye d'aller au-delà un petit peu des discours acritiques, hein, qui ne contiennent aucune criticalité, envers des phénomènes éducatifs et ici notamment le système éducatif finlandais. Alors, je passe à ma première diapositive qui est en fait très symbolique de ce qui s'est passé ces dernières années en Finlande. Hein, en tant que pays nordique faisant partie de l'Union européenne qui a été alors qualifié d'Eldorado, de miracle, de petit paradis sur terre, et qui a fait rêver de nombreuses personnes. La photo que vous voyez là est tout à fait classique maintenant, hein. Comme je travaille dans un département de la formation des enseignants, nous recevons des invités de partout du monde, ce que l'on appelle des touristes pédagogiques, que ce soit des chercheurs, des praticiens, des hommes politiques, mais aussi beaucoup de journalistes, qui viennent essayer de trouver les raisons de ce que l'on décrit comme un miracle. Hein. Et donc là, par exemple, vous avez des collègues à moi. En fait, ce sont des collègues qui se spécialisent dans l'exportation de l'éducation finlandaise, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire de l'argent à partir de l'éducation finlandaise, qui parle à une équipe de journalistes venus spécialement de Corée pour faire un reportage sur la Finlande. Alors, ces dernières années, il y a eu plein de livres et plein de documentaires qui ont été faits sur l'éducation finlandaise. Je vous en montre quelques exemples ici. Alors, au niveau des livres, vous avez des livres de recherche, mais aussi des livres un petit peu plus popularisants, hein, vulgarisants entre guillemets, comme celui de Maria Kohuta au milieu, qui s'appelle « On top of the world ». Donc en haut du monde, hein, c'est-à-dire qui domine le monde, entre guillemets, et qui est une maman finlandaise qui essaye d'expliquer aux mamans du monde comment élever leurs enfants comme des enfants finlandais, et ainsi donc les éduquer de la meilleure façon possible. Au niveau des reportages, alors il y en a des centaines, hein, vous pouvez les voir sur Internet, mais deux qui m'ont beaucoup intéressé, c'est celui de Dan Rather, donc, qui est un journaliste américain très connu, qui est venu en Finlande pour voir comment fonctionnent les écoles, pourquoi les profs sont si bons, enfin, etc., etc. Ou un chercheur de Harvard qui a fait un documentaire sur lequel j'ai posé un regard très critique, qui s'appelle « The Finland Phenomenon ». Donc, il est venu, il est resté notamment à Helsinki, il est allé dans les meilleures écoles, les écoles où les classes sociales sont assez aisées ou moyenne classe, où il y a très peu d'immigrés, hein. Tous les gamins que l'on voit passer en général, c'est des petits blonds aux yeux bleus. Et il a filmé, il s'est entretenu avec les parents, avec des enseignants, etc., pour montrer que c'était vraiment le meilleur système éducatif au monde, etc., etc. Ce qui me désole énormément dans ce genre de document, c'est bien sûr le manque de critiques par rapport à ce que les gens disent et par rapport à ce qu'on montre. Je vous rappelle que beaucoup de touristes pédagogiques, c'est-à-dire des gens qui ont écrit des livres sur l'éducation finlandaise ou qui sont allés voir ce qui s'y fait, ne parlent ni finnois ni suédois et ne peuvent donc pas comprendre ce qui se dit dans la société finlandaise ou ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train d'observer, car ils doivent faire confiance, pardon, ils doivent s'appuyer sur ce que les médiateurs ou les interprètes qui les suivent leur disent sur ce qui est en train de se faire. Alors ça donne des situations complètement amusantes où l'interprète ou le médiateur dit n'importe quoi par rapport à la situation, c'est-à-dire ne révèle pas la réalité et les gens tombent dans le panneau. Hein. Alors je ne dis pas que tout le monde ment, bien sûr, mais quand on doit promouvoir son éducation finlandaise, quand on doit vendre l'éducation finlandaise, il est clair que les critiques par rapport aux défauts que notre système éducatif a, eh bien, seront limitées. Alors, le roi de la propagande finlandaise, c'est ce personnage, hein, qui s'appelle Pasi Sahlberg, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Finnish Lessons », qui vient d'être traduit en français. Je ne sais pas s'il a été publié. De toute façon, je ne l'achèterai pas parce que malheureusement, j'ai déjà lu celui en finnois qui m'a beaucoup désolé. Hein. Ce n'est pas un chercheur, hein. Il se qualifie de chercheur. Il est rattaché à mon département, mais il n'a pas de poste, hein, dans mon département. Donc, il n'a jamais véritablement travaillé comme chercheur. Mais actuellement, il est professeur invité à Harvard. Alors, un poste qu'il a gagné parce qu'il a fait la promotion de l'éducation finlandaise pendant 3 ans, surtout à partir de ce livre. Alors, il y a toute une histoire. Hein. Le livre a été publié par des gens qui travaillent avec Obama, enfin, etc., etc. Donc, c'est encore toute une magouille qui lui a permis d'être promu. Et honnêtement, moi, je suis son compte Twitter. Hein. Il envoie beaucoup de tweets sur son compte à propos de l'éducation finlandaise. Et je suis très souvent très en colère parce que il est très sélectif par rapport aux nouvelles sur l'éducation finlandaise, par rapport aux nouvelles sur la Finlande. Hein. Très souvent, il nous dit « la Finlande a été élue pays numéro 1 pour ci, numéro 1 pour ça ». Et en fait, on a un peu sentiment de schizophrénie quand on lit les infos en Finlande, en finnois ou en suédois, dans le journal ou dans la revue des profs, où on n'arrête pas d'avoir des critiques par rapport au fait que les enfants sont de plus en plus indisciplinés, qu'il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de bullying, c'est-à-dire je trouve plus le mot, c'est-à-dire que les enfants s'embêtent les uns les autres, ils s'insultent, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que il en parle très très peu ou il n'en parle pas du tout, un peu en cachant la réalité. Alors, bien sûr, ça nous désole tout ça, parce que, en fait, depuis le succès de la Finlande à PISA, il y a toute une stratégie des différents gouvernements qui ont dirigé le pays depuis pour exporter et vendre l'éducation finlandaise au monde entier. Hein, cela fait partie des stratégies officielles du pays. Et donc, bien sûr, dès que l'éducation devient un produit que l'on va vendre, on peut s'interroger sur les possibilités que l'on a de critiquer ou de mettre en avant quels sont les problèmes que l'on rencontre dans ce système. Hein, c'est comme si vous travaillez, par exemple, pour Apple. Vous vendez des iPhones, quand vous vendez le produit, très rarement on va vous dire bah, il n'est pas bon parce qu'il y a ça, ça, ça. Donc, si on. Hein, regardez les universités finlandaises ont été privatisées il y a très peu, et on doit donc trouver un certain. Enfin, on doit trouver nos propres. Presque la plupart de notre budget annuel à l'extérieur du ministère de l'Éducation, ce qui fait que eh bien, vendre l'éducation finlandaise rapporte. Une somme d'argent qui est non négligeable, et pour s'assurer que l'argent rentre en permanence, eh bien, il faut que l'on contribue d'un certain côté à faire de la propagande sur ce système éducatif et taire ses défauts pour attirer les clients. Et là, l'exemple que vous voyez sur le PowerPoint, là-haut, c'est par rapport au fait que nous vendons actuellement, nous sommes en train de construire des écoles en Arabie Saoudite, hein, des écoles finlandaises. Alors, c'est assez gênant parce que on n'a pas le droit de révéler les détails. On a signé des contrats de silence, je ne sais plus quel est le mot, avec les autorités là-bas. Et donc, on ne sait pas combien d'argent on va recevoir. Hein, seulement les grands chefs le savent, ceux qui ont signé les contrats. On ne sait pas ce qu'on est vraiment en train de vendre et de faire. Et surtout, on ne sait pas si on essaye d'avoir un impact sur, bah, par exemple, quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est la position des femmes dans la société saoudite. Hein, venant de Finlande où on a une pseudo-égalité, alors je dis pseudo parce qu'il n'y a pas d'égalité, mais au moins il y a un certain niveau d'égalité entre les hommes et les femmes, et aller vendre des écoles finlandaises, un système éducatif qui est fondé sur l'égalité entre les sexes, dans un pays où on utilise le Coran comme excuse pour ségréguer les femmes ou ne pas leur donner les mêmes droits que les hommes, ça je trouve très 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 problématique. Et quand on regarde les pays, hein, j'ai une doctorante qui travaille là-dessus, les pays où on vend nos services, que ce soit des enseignants que l'on exporte, que ce soit des formations, on peut s'interroger sur l'aspect politique et éthique de tout cela. Alors, la slide suivante, c'est la même chose, hein, ça me fait beaucoup rire. Hein. Notre département a acheté aussi, alors là on nous parle de ministres, mais notre département a acheté des burqas que nos employées féminines doivent porter quand elles vont en Arabie Saoudite pour promouvoir l'éducation finlandaise. Moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème et je l'ai dit dans mon département. Évidemment, personne ne comprend parce qu'on me dit oui, mais c'est pour respecter leur culture. Pour moi, évidemment, bon, je suis spécialiste d'éducation multiculturelle. Ça, c'est pas la culture. Je veux dire, la burqa dans ce contexte, c'est pas la culture, mais c'est de la politique et de l'identitaire en même temps. Mais enfin, peu importe. Et donc, j'ai des collègues qui vont là-bas, qui portent leur burqa pour vendre ce système merveilleux et qui se prennent en photo, par exemple, portant les burqas et n'arrêtent pas de polluer Facebook avec ces photos. À nouveau, au niveau éthique, on peut se poser de grosses questions. Alors, cette slide, c'est. Alors, vous aurez reconnu les Angry Birds. Hein, c'est l'un des produits finlandais que l'on connaît un peu partout dans le monde maintenant. Ce sont des jeux électroniques. Alors, cette compagnie qui s'appelle Rovio, Rovio, essaie actuellement de vendre ses produits en jouant avec la réputation de l'éducation finlandaise. Hein. Parce que l'éducation finlandaise marche très bien et se vend bien dans le monde, eh bien, ils utilisent l'argument que leurs jeux sont fondés sur des théories ou des pratiques éducatives finlandaises pour les vendre. Soit dit en passant, quand vous regardez ces théories et ces pratiques éducatives finlandaises, elles n'ont rien de finlandaise, elles sont très internationales. Bon, je ferme la parenthèse. Si vous avez des questions, envoyez-moi des emails là-dessus et je pourrais vous en parler. Et donc, cette compagnie Rovio, actuellement, travaille avec notre département. Hein. Ils nous ont construit une salle absolument merveilleuse avec de la technologie, des belles lumières, enfin, etc., etc. Alors, quand j'ai demandé au chef de projet qu'est-ce qu'on va faire avec cette salle, ils n'étaient pas sûrs, mais enfin, on a une belle salle et ils vont construire la même salle à Shanghai, en Chine et au Chili. Et il y a 2 semaines, nous avons inauguré cette salle. Il y avait la ministre de l'Éducation finlandaise, des représentants des autorités chinoises, coréennes, etc., etc. Et c'était absolument insupportable d'écouter le discours des patrons de cette compagnie Angry Birds. Je pense qu'en 20 minutes, ils ont dû dire au moins 400 fois que la Finlande a le meilleur système éducatif de la planète. Et bien sûr, ce sont des hommes d'affaires, donc je comprends cette attitude. Mais ce qui me gêne dans l'histoire, c'est véritablement le manque de critique et de retour réflexif et critique sur notre système qui est loin d'être parfait. Et les derniers résultats PISA, bon, j'aime pas utiliser cet argument parce que je n'y crois pas trop, mais les derniers résultats PISA montrent que nous avons des problèmes sur lesquels il faut travailler assez rapidement avant que la situation ne s'aggrave. Hein. Donc, Angry Birds et l'éducation, à nouveau, business et éducation pour vendre, c'est assez effrayant. Alors, je continue un petit peu hein, mon tour de certains mythes sur l'éducation finlandaise. Vous voyez ici, pardon, vous voyez ici deux très jolis bâtiments, hein, assez impressionnants, que vous pourrez voir au centre de Helsinki, hein, donc la capitale du pays. Ce sont deux écoles, hein, des écoles qui sont prestigieuses, où tout le monde ne peut pas entrer, à l'encontre de ce qu'on n'arrête pas de nous dire, qu'il n'y a pas de sélection dans les écoles finlandaises. Si il y a de la sélection dans certaines écoles qui sont par exemple semi-privées ou qui sont entièrement privées, je pense notamment à l'école européenne, je pense à l'école internationale, je pense à l'école juive, etc., etc. Et quand nous recevons des touristes pédagogiques, nous les emmenons presque systématiquement, quand je dis nous, ça veut dire mon département, dans ces écoles pour leur montrer à quel point nos écoles sont merveilleuses, belles, fonctionnent. Et les étudiants que l'on trouve là, ce qu'on oublie de dire à nos touristes, c'est que ces étudiants-là, bien, ce ne sont pas du tout les mêmes étudiants que ceux qu'on trouverait par exemple dans les écoles désavantagées à l'est de Helsinki, où les classes sociales les plus désavantagées, où les enfants issus de l'immigration sont un peu parqués ou ségrégés, comme ça se fait en Suède ou en France, etc. etc. Et actuellement, bon, évidemment, à cause du climat, de nombreuses écoles ont des problèmes de moisissure. Hein, et ça, c'est vraiment un problème de santé pour les enseignants et les enfants. Et donc, il y a beaucoup d'écoles qui sont obligées de travailler dans des préfabriqués. Et je lisais dans la presse aujourd'hui qu'il y a une entreprise qui se spécialise justement dans les préfabriqués pour les écoles et qui a vu ses actions exploser ces dernières années parce qu'ils se font un fric. Moi, je vais utiliser ce mot, un fric pas possible en vendant ces préfabriqués. Alors, la troisième photo que vous avez sur cette diapositive, c'est celle d'un ministre de l'Éducation chinois qui est venu nous voir il n'y a pas très longtemps et que l'on est bien sûr dans ces écoles. Alors, regardez ce contraste. Nous sommes dans une école à Helsinki. Les deux photos que je vais vous montrer là sont, enfin, ont été publiées récemment dans la presse finlandaise. La Finlande traverse des crises économiques atroces. Hein. La crise actuelle est plus forte que celle que l'on a connue dans les années 90. Et cela veut dire que les différentes municipalités soit mettent à la porte des enseignants et des assistants, soit les mettent au chômage technique, sans salaire pendant un certain nombre de semaines, hein, pour pouvoir faire des économies, parce qu'il faut faire des économies. Ce qui veut dire que dans certaines écoles, hein, ce n'est pas forcément celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci est en banlieue de Helsinki, dans certaines écoles, il y a presque plus d'enseignants, parce qu'ils sont au chômage technique, où ils ont été mis à la porte, où on a fermé l'école, eh bien on est obligé de rassembler les enfants. Donc là, par exemple, ils sont rassemblés dans un gymnase. Et on a plusieurs classes qui se font en même temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais c'est assez amusant de voir que le prof a utilisé un matelas, donc il a retourné un matelas qu'on utilise pour la gym, et qu'il utilise en guise de tableau pour travailler avec les enfants. Alors voilà, hein, c'est ça le miracle de l'éducation finlandaise. À nouveau, pour les fans de l'éducation finlandaise, pensez à cette alternative, cette vue alternative de l'éducation qui fait aussi partie des réalités de notre système. Alors, un petit peu pour en rajouter là-dessus, alors vous avez une vue, là vous êtes à Kuopio, un peu au nord du pays, à Helsinki, et là vous avez ce qu'on appelle les leipä jono. Donc, si je traduis mot à mot, ça veut dire les queues pour le pain. L'église, ou les églises différentes de Finlande, et certaines associations distribuent actuellement de la nourriture à de plus en plus de gens, donc distribuent gratuitement, qui ne peuvent plus acheter, qui ne peuvent plus se payer la nourriture. Vous savez que la Finlande est l'un des pays les plus chers au monde en termes de nourriture. Et ces genres de photos que vous avez certainement jamais vues. Hein, on vous a peut-être montré des jolies photos de paysages finlandais, il n'y a personne, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Et là, voici une vue alternative aussi. Hein. Les inégalités sociales se sont creusées au fil des dernières années, ou même, bon, ça a commencé bien avant, il y a toujours eu des inégalités sociales en Finlande, bien sûr, comme dans toute société, mais là, c'est en train de se creuser et c'est assez effrayant parce que de plus en plus de familles sont endettées et ne peuvent plus payer leurs crédits. Il y a un taux de chômage qui serait à au moins 12% actuellement. Et bon, évidemment, tout cela a des conséquences sur l'éducation, sur les relations entre les enfants et les parents, etc. Alors, malheureusement, quand on ne lit pas le finnois ou le suédois, il y a plein de récits alternatifs sur l'éducation finlandaise qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas comprendre. Et là, je vous mentionne deux livres qui ont été publiés sur les 2 dernières années par une amie à moi qui est en fait prof dans une école, une école à Turku, donc la ville où j'habite à l'ouest du pays. Le premier livre qu'elle avait publié s'appelait Koulunvika, avec un point d'interrogation qui pourrait se traduire comme c'est quoi, quel est le problème actuellement avec notre école? Ou alors, elle a publié il y a à peine un mois un livre qui s'appelle Herää koulu, qui veut dire réveille-toi à l'école ou réveillez-vous les écoles, dans lesquelles elle critique justement l'éducation finlandaise. Elle est prof, hein, donc elle a été prof dans plusieurs écoles, dans différents types d'écoles en Finlande, et elle critique ardument, eh bien, le métier de l'enseignant, ses responsabilités, les façons d'enseigner, un peu le traditionnalisme dans l'éducation finlandaise, etc. C'est un véritable plaisir de l'écouter. Malheureusement, elle écrit en finnois. J'ai essayé de faire traduire son premier livre en anglais, donc j'avais demandé de l'argent auprès de fondations privées et publiques. Nous n'avons pas eu ce budget, alors est-ce que c'est politique ou pas, parce qu'on ne veut pas faire passer ces critiques. Mais sur Internet, vous trouverez au moins un entretien en anglais de Marit. Et je recommande véritablement, vraiment de l'écouter, parce que c'est quelqu'un, bon, elle est un peu provocatrice, mais c'est quelqu'un qui vous donne à nouveau une vue un tout petit peu différente de l'éducation finlandaise. J'ai bientôt fini. Je voulais simplement vous montrer 4 documents rapidement maintenant. Le premier document, c'est le classement des meilleures écoles en Finlande. Hein. Depuis quelques années, au printemps et à l'automne, la presse finlandaise publie un classement des meilleures écoles finlandaises. Et celui-ci, c'est celui de l'année dernière pour les lycées. Vous vous rendez compte, à part le numéro 7, et bon, ça, je pourrais l'expliquer, mais j'ai pas le temps, que, en fait, les meilleures écoles se situent essentiellement au sud de la Finlande, à Helsinki, à Espoo, donc Espoo qui, avec Helsinki et Vantaa, forme ce qu'on appelle le Greater Helsinki Area, à Tampere, etc., etc. On nous dit que les écoles finlandaises sont les mêmes. On nous dit que les enfants ont les mêmes possibilités, les mêmes opportunités. Je pense que là, c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas forcément le cas. Alors, bien sûr, là, on parle du lycée. Hein, parce qu'une autre chose, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler de PISA, mais PISA, ça va jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, ce qui se passe après l'âge de 15 ans n'est pas dans PISA. Et en fait, beaucoup de gens ont montré que justement, ce qui se passe après le collège en Finlande est un peu catastrophique, notamment au lycée et à l'université, les universités finlandaises n'étant pas aussi excellentes que ce qu'on, les collèges, par exemple, si on les considère comme étant excellents, bien sûr. Là maintenant, je vous montre simplement rapidement des couvertures en fait d'un journal du soir qui est très populaire en Finlande. On le voit partout, tous les soirs, dans tous les magasins, etc. Donc, évidemment, tout le monde le lit pas, mais c'est les gros titres en fait ont souvent un impact sur comment on parle de certains phénomènes sociétaux, etc. Et on a fait une étude avec une de mes collègues. On a regardé en fait les gros titres sur l'éducation finlandaise et sur les enseignants. Et en fait, on se rend compte que plus on se rapproche des années 2010, plus les nouvelles sur l'éducation sont négatives. Donc là, par exemple, ça date du mois de novembre dernier ou même octobre dernier, où on savait que les résultats de PISA 2013 n'allaient pas être très bons. Et donc on a commencé à essayer d'expliquer pourquoi on allait tomber, en fait, chuter dans les classements. Et donc là, par exemple, la presse explique en disant que bah, les enseignants sont devenus paresseux. Hein. Oppilaista Sur cette couverture-là, on nous dit que ben, une recherche vient de montrer que eh bien, si on a un enseignant sexy, eh bien, on va se faire, on va se faire chahuter par les enseignants et par ses collègues, ce qui remet complètement en question l'idée que le prof finlandais est respecté, qu'il représente ce qu'on appelait avant la bougie, candle of the nation, donc la bougie de la nation, c'est-à-dire celui qui permettait, qui était tellement respecté que parce qu'il nous amenait la connaissance. Hein, et il y a de plus en plus de profs qui justement se plaignent du fait qu'ils sont vraiment très maltraités par les médias, mais aussi par les enseignants, par les parents et par les gamins eux-mêmes. Bon, la dernière couverture, je vais faire sauter et j'en arrive à la fin de mon intervention. Cette photo est très symbolique. Hein. Vous voyez, c'est le même bâtiment. C'est un bâtiment qui était très important pour la Finlande. C'est notamment le headquarters. Donc, c'était le centre de Nokia, hein, le bâtiment principal de Nokia. Et en décembre, alors qu'on nous a annoncé que la Finlande chutait dans PISA, eh bien, les lettres de Nokia, NOKIA, ont été enlevées et remplacées par Microsoft, parce que Microsoft a racheté Nokia. Nokia n'existe plus. Dans le livre La meilleure éducation au monde, point d'interrogation, en conclusion, je m'interroge là-dessus aussi. Et je me demande si ce qui est arrivé à Nokia, hein, Nokia qui était très populaire, qui avait beaucoup de succès dans les années 90, a chuté subitement parce qu'ils n'ont pas été assez créatifs et n'ont pas été assez critiques par rapport au travail qu'ils faisaient. Et surtout, ils n'ont pas fait assez confiance à l'extérieur, c'est-à-dire aux gens qui venaient du dehors de la Finlande. Hein, quand vous regardiez le top management de Nokia, ils étaient tous finlandais, il n'y avait pas un seul étranger. Et en fait, dans le livre, je me pose la question, est-ce que l'éducation finlandaise est en train de faire la même erreur que Nokia en ayant construit une identité tellement forte et tellement fière de son propre système qu'on n'a pas réussi à se remettre en question, à regarder la réalité et à essayer de construire des stratégies pour faire face aux problèmes que nous rencontrons déjà actuellement et qui vont se multiplier sans aucun doute à l'avenir. Voilà, je vais vous laisser avec cette question. Je vous remercie pour votre patience. J'espère que bon, mon discours faisait sens. Je vous laisse mon adresse email en bas si vous voulez me contacter. Je peux répondre à vos questions, à vos critiques avec plaisir. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous pour répondre à ces questions, à ces critiques. Mais voilà, et je souhaite une bonne table ronde à mes collègues et merci encore aux organisateurs et notamment à Isabelle pour ce bel événement. Merci.